à visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très très ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous d'information, l'émission À visage découvert, deuxième émission dédiée à l'apport et le poids de la diaspora franco-algérienne, sous l'angle cette fois-ci, sous l'angle bien sûr des médecins algériens qui font tourner, vous le savez, l'hôpital public français, mais qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. 19 000 médecins, corrigez-moi si c'est faux, ont des diplômes étrangers et les Algériens, les Franco-Algériens représentent 37%. Donc, pour en parler aujourd'hui, le plaisir de recevoir sur ce plateau des médecins de poids, des responsables de service. Alors, j'ai le plaisir de recevoir docteur Kali Salima. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin oncologue et chef du pôle cancérologie à la Fondation Cognac-G, experte et reconnue en chimiothérapie et en recherche clinique. Vous avez fait vos études à Blida et vous êtes arrivée donc en France dans les années, ça fait 30 ans ?
Exactement.
Ça fait 30 ans.
20 voilà. Août 90.
Voilà, que ça. On ne peut pas oublier des dates comme ça, n'est-ce pas ? En face de vous, c'est pas en face, mais c'est à côté, hein, c'est un confrère, Jamil Rahmani, qui est connu ici par Radio Orient, parce qu'il est passé plusieurs fois dans pas mal d'émissions. Il est aussi essayiste, écrivain, et puis porté sur la naturopathie. Il est ancien chef de service d'anesthésie et réanimateur à l'hôpital franco-britannique et à l'hôpital de Neuilly, médecin anesthésiste également à l'hôpital Bichat, et vous venez aussi d'Algérie, parce que vous avez fait vos études à Alger, à La Périne. Bonjour docteur.
Bonjour, effectivement j'ai fait mes études à Alger et je suis venu faire ma spécialité en 1976.
Dis donc, voilà. C'est bien, ça veut dire qu'on a quand même des gens de poids et d'expérience, voilà. Au bout du fil, cette fois-ci c'est pas l'Algérie, c'est pas l'Algérien, il est à Marseille, parce qu'il aurait pu être avec nous, la belle ville de Marseille, docteur Ayoub Mdaffar. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Et très bien, et la ligne est
avec moi pour intervenir dans cette émission.
Elle est claire là. La ligne, on peut vous garder même pendant toute l'émission si cela est possible. Vous présidez donc la Fédération des praticiens de santé. Vous êtes à la tête de ce premier syndicat, les PADU, on l'appelle comme ça, mais vous allez nous dire parce que c'est long, effectivement, créé il y a 30 ans. Docteur Ayoub Mdaffar, vous êtes donc vous aussi médecin anesthésiste. On a beaucoup de médecins ici qui endorment et qui réveillent. J'espère que Raymond Jouan ne va pas être endormi pendant l'émission, n'est-ce pas Raymond ? Vous êtes arrivé en France dans les années 80, vous avez passé un examen pour obtenir un DIS, c'est-à-dire un diplôme interuniversitaire de spécialisation. Donc, vous avez effectivement, lors de la déclaration du président, elle est toute récente, il était de passage dans un hôpital en Ariège, vous avez réagi, vous interpellez aujourd'hui le président à légiférer justement sur cette problématique. On a l'impression que le président Emmanuel Macron découvre cette problématique alors qu'elle est ancienne, n'est-ce pas ?
Oui, complètement.
Alors, Jamil Rahmani, restez avec nous.
Elle est très ancienne, hein. Il y a systématiquement une exploitation d'un prolétariat médical depuis des décennies. Hein,
un prolétariat médical. Vous direz la même chose, docteur Kali ?
D'accord. En fait, moi, ça fait 35 ans que je suis là et je pense qu'avant, c'était mieux que maintenant et que le système sanitaire se dégrade pour nous, les médecins à diplôme étranger.
Comment c'était mieux, c'est-à-dire ? En quoi
c'était
mieux ?
L'intégration était effectivement un peu longue, mais elle était claire et plus précise. Avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Les médecins à diplôme étranger sont plutôt victimes de lourdeurs administratives, professionnelles, sociétales et même éthiques pour pouvoir exercer leur...
Vous allez nous dire au courant de cette émission comment vous avez pu décrocher, arracher, pour ne pas dire arracher, votre place. Docteur Jamil Rahmani, vous souriez. C'est normal que les médecins à diplôme hors Union européenne passent par cette galère ?
Non, c'est absolument pas normal, mais il y a un ostracisme, il y a un mépris de ce qui ne vient pas d'Europe, hein, c'est clair. Et c'est un vrai parcours du combattant. Moi, je pense que, contrairement à ce que vous dites, les choses se sont simplifiées, parce que moi, quand j'ai demandé l'autorisation de pratiquer, j'ai mis presque 10 ans à l'avoir.
Dix ans. Pareil pour moi. On a tous fait une dizaine d'années. Ouais.
Sauf que maintenant, dès l'instant où vous passez la PAE, où vous réussissez au concours, vous avez deux années pour être inscrit au Conseil de l'Ordre. Mmh. Là, c'est plus clair. Alors que moi, de mon temps, j'ai passé le... C'était pas un concours. Vous passiez devant un jury qui voyait si vous parliez bien français, qui voyait si votre niveau médical était bon. Et ensuite, vous étiez suspendu à une commission qui vous attribuait ou pas l'autorisation de pratiquer. Et moi, j'ai mis 10 ans à l'avoir. Alors que j'étais médecin et que j'avais 2 spécialités en France que j'avais étudiées en France.
Oui. Et c'était pareil pour vous, docteur
Alors,
Khalid.
Pour moi, je suis venue peut-être après vous. Je suis comme le docteur Ayoub, j'ai fait un DIS en cancérologie, donc l'équivalent du DES, leur spécialité à eux, à diplôme français, avec les mêmes cours théoriques, les mêmes internats. On galérait pour trouver des stages d'internat alors qu'eux, ils étaient affectés d'emblée. Et que nous, tous les 6 mois, il fallait chercher un stage validant en oncologie. Après ce diplôme de DIS, on a passé un examen national qui s'appelle le PAC pour devenir praticien assistant contractuel, obligation de travailler à l'hôpital public, obligation d'être sous-payé aussi, donc un statut très précaire. Moi, j'ai préféré éviter ça. J'ai été faire de la recherche clinique dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis bien éclatée, toujours en cancérologie. Et je suis revenue pour passer cet examen-là. Ça se passait, je pense, à Strasbourg à l'époque, on était des milliers. On l'a eu, mais on était cantonnés à l'hôpital public avec des grilles de salaire que vous connaissez tous et une exploitation qu'il ne faut pas nier au jour d'aujourd'hui. Donc, le cursus était plutôt dans l'ordre. On savait où on allait. C'était long. On a tous perdu une dizaine d'années. Ensuite, il fallait passer comme vous pour une qualification en oncologie devant le jury national avec des validations de stages de gros centres anticancéreux en général. Je suis passée par là. Et une fois qu'on a la qualification, là, on pouvait aller exercer en tant que cancérologue.
Alors, justement, il y a une question qui me taraude l'esprit. On parle des déserts médicaux ici en France, mais je suis tentée de vous dire qu'il y a aussi des déserts médicaux là-bas en Algérie. Et vous avez justement quitté ce pays, alors que vous étiez quand même dans un hôpital nantais, puisque vous avez travaillé à Ain Najah, c'est-à-dire l'hôpital militaire.
Moi, franchement, je suis arrivée en France après 9 mois de résidence en radiothérapie à l'hôpital militaire. À l'époque, il n'y avait pas de formation de chimiothérapeute. On était d'ailleurs la première promotion de radiothérapie, 2 à Alger, 1 à Oran et 1 à Constantine. Mmh. Au bout de 9 mois, la radiothérapie, je suis désolée, je l'ai faite juste pour me rapprocher de la cancéro. J'ai dû abandonner pour venir faire ici la chimio. Mais il était question que je reparte après ma spécialisation.
Le retour ne s'est pas fait.
Le retour ne s'est pas fait pour des conditions que vous devez deviner à l'époque.
Absolument, dans cette période compliqué. De la décennie noire, Jamil Rahmani, docteur, vous, l'anesthésie, bon, je veux dire, là-bas, il y a quand même des médecins anesthésistes.
Oui, mais j'ai pratiqué là-bas.
C'est pas un déficit de formation là-bas, quoi, que, contrairement à votre...
Non, mais moi, je suis venu faire ma spécialité en France en 76.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie réanimation, il n'y avait pas de spécialité en Algérie. Et ensuite, je suis retourné en Algérie pour faire mon service national, militaire. Et j'ai pris un poste de maître assistant à l'université d'Alger. J'ai enseigné l'anesthésie et j'ai travaillé à l'hôpital Mustapha, à l'hôpital de Beni Messous. Et on m'a proposé un poste de chef de service à El Harrach. Ce poste de chef de service a mis beaucoup de temps à arriver. Et entre-temps, on m'a proposé un poste de chef de service à Paris. Donc voilà, je n'ai pas hésité.
Le choix était très vite fait.
Voilà, le choix était vite fait. Je n'avais rien et j'ai troqué rien contre un poste de chef de service en région parisienne.
On comprend très bien qu'il n'y avait pas l'environnement adéquat, c'est-à-dire l'écosystème où vous pouviez évoluer. Alors, direction Marseille à présent avec docteur Ayoub Mdaffar. Alors, vous êtes, vous aussi, vous avez fait votre formation en Algérie, vous avez quitté le pays très tôt, dans les années 80, vous êtes arrivé ici, donc en France, pour faire ce fameux diplôme interuniversitaire de spécialisation en anesthésie. Et donc, vous avez, justement, j'ai le communiqué de presse que vous m'avez expédié sous les yeux, vous avez réagi à la déclaration faite par Emmanuel Macron on a l'impression que le président découvre la problématique. Il était de passage dans un hôpital situé en Ardèche, où il dit justement, nous avons des médecins remarquables, en parlant des Algériens, et c'est là où le terme de Maboul a glissé pour dire qu'on ne peut pas se passer des Algériens ici en France, contrairement à ceux qui pensent qu'on peut très très bien se passer des Franco-Algériens. Alors justement, ce système que le président dénonce, et je le cite, il parle d'un système de folie qui plonge les médecins remarquables dans une précarité, alors qu'il faut, ils font tourner l'hôpital public français. Qu'en est-il au juste? Vous l'interpellez pour lui dire « Bonjour, monsieur le Président, vous venez de vous réveiller? Allez-y. »
Bon, il faut dire que, bon, moi, je vais, j'ai écouté mes deux collègues s'exprimer sur leur parcours. Moi, je vais aborder le peut-être cette problématique autrement,
oui.
D'un côté un peu plus global et plus syndical, on va dire, parce que je suis président d'un syndicat, et c'est sûr, moi, depuis des années, maintenant depuis 30 ans, je suis en négociation permanente un peu avec les pouvoirs publics depuis que Simone Veil, en fait Simone Veil, c'est elle qui a fait le oui. premier pas mm-hmm. en tant que ministre dans les années 94, en faisant sortir une loi en 95 pour un peu instaurer un parcours d'équivalence pour ces médecins. Et à l'époque, Simone Veil, elle était un peu... et un peu estomaquée par la situation parce que elle a dit on peut pas avoir un tel nombre de médecins qui travaillent dans les hôpitaux français qui sont à la fois sous-payés sans aucun statut alors que représentent un nombre incroyable parce que à l'époque ils ont fait un audit et l'audit montrait que 50% à peu près des gardes en France sur une seule nuit sont assurés par des médecins
franco-algériens,
diplômés extra-communautaires alors qu'ils avaient aucun titre et aucune équivalence.
50% voilà. Des jours dentistes, hein, docteur Rahmani.
Oui, tout à fait, oui.
Tout à fait. Madame Kali.
Tous les hôpitaux de proximité sont tenus ouais. par les.
Mais pas que, hein, pas que.
Surtout.
Ouais, pas que,
et surtout si on prend un week-end ou un jour férié, là c'est
oui, bien sûr.
Le chiffre explose. Voilà.
Alors le mot est lancé par
Noël jour de l'an. Noël voilà. jour de l'an. Si vous n'avez pas de médecin étranger, ben il y a pas, ça y a tourne pas. Plus.
Comment on peut appeler ça justement? Simone Veil était estomaquée. J'ai envie de dire, on l'est encore aujourd'hui en 2026, docteur Kali.
Ah, c'est le paradoxe de la politique. Hein. Il y a un manque de médecins flagrant, tout le monde le sait. Et de l'autre côté, on retarde les qualifications et les autorisations d'exercice des médecins qui sont sur place et qui travaillent en plus. Hein.
Et en fait, si on pouvait aller un peu plus loin dans l'analyse, est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est des préjugés? Est-ce qu'on doute justement des compétences des médecins franco-algériens? Dites-nous tout, docteur Ayoub.
C'est normal lorsque on arrive dans un pays qu'on veut avoir le droit d'exercer et les équivalences, qu'on passe par, je dirais, une période d'intégration et d'évaluation. Mm-hmm. D'ailleurs, aucun médecin n'est contre cette procédure.
Oui, tout à fait d'accord.
Tous les médecins, d'ailleurs, nous, on se soumet avec, je dirais, bon cœur à cette procédure parce que ça nous permet aussi, nous, d'être un peu plus à l'aise dans un nouveau système que peut-être on découvre et qui est organisé d'une autre façon. Mais ce qui est anormal, c'est que, d'abord, que ces gens-là qui parfois occupent des postes importants pendant un certain moment soient un peu sous-payés, avec des statuts... qui les rabaisse.
Qu'est-ce qu'il a comme statut lorsqu'il justement le médecin franco-algérien est recruté? Il est aide-soignant, il est médecin à part entière.
Les FFI, les faisant fonction d'interne, on n'est pas interne. Quand on n'est pas interne, on n'est pas interne, on n'est pas médecin, c'est un sous-médecin, voilà.
Un sous-médecin. Combien touche justement un sous-médecin franco-algérien aujourd'hui, dans l'hôpital public?
Pas seulement franco-algérien, tous les médecins étrangers, c'est pas... C'est pas juste
les diplômes hors Union européenne.
Oui, les diplômes hors Union européenne.
Tunisiens,
les Tunisiens, les Marocains, les Congolais.
Ouais. Alors justement, combien touche aujourd'hui le médecin sous-payé? Docteur Ayoub, vous avez une idée?
Aujourd'hui, stagiaire associé ou faisant fonction d'interne, c'est aux alentours de 1 600 €. 1 600 € brut.
C'est à peine le SMIC.
Voilà.
C'est 1 600 €
brut.
Et le médecin normal, qui a un diplôme Union européenne, touche 3 500 €.
Il débute aux alentours de 4 000 bruts.
Non, 4 000 bruts, vous voyez la différence.
En plus, il y a des échelons, donc tous les deux ans, ils gagnent encore en salaire.
Alors, j'imagine que dans votre syndicat et dans votre communiqué, justement, vous attirez l'attention au président de la République sur les inégalités salariales, entre autres. Justement, restez avec nous, on marque une pause et retour sur le plateau à visage découvert tout de suite après.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Merci de nous rejoindre dans votre émission À visage découvert. Sur le plateau d'un visage découvert, des médecins franco-algériens qui font tourner l'hôpital public en France et aujourd'hui décryptage et analyse sur cette problématique qui dure depuis des années. Quand on parle de problématique, on parle d'inégalité salariale, d'inégalité de traitement, pour ne pas dire carrément le mépris à l'égard des diplômes hors Union européenne. Sur le plateau, docteur Kala Salima, docteur Jamil Rahmani. Et depuis Marseille, parce qu'on va au soleil aussi, hein, parce que là, en ce moment, à Paris, il ne fait pas très très beau, n'est-ce pas? Docteur Ayoub Mafar, qui est donc du syndicat des PADU. Restez avec nous, vous nous entendez, vous n'êtes pas parti?
Oui, très bien, je vous entends
excellent.
Parfaitement.
Excellent.
Merci à vous.
Alors, docteur Kala Salima, vous voulez réagir sur un problème précis, c'est-à-dire, est-ce que le traitement fait aux médecins étrangers, ou plutôt des médecins qui ont des diplômes hors Union européenne, sont traités différemment, par exemple, dans les pays voisins?
Justement, je voulais rebondir après l'intervention du docteur Ayoub. Il est clair que tous les médecins, quand ils changent de pays, sont d'accord hein, pour passer des examens et des évaluations. Mais la spécificité de la France, c'est notre problème aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Ayoub. Moi, j'ai des amis qui sont partis aux USA depuis longtemps. Ils ont passé leur examen. C'était très dur. Hein. C'est des examens sélectifs, hyper sélectifs et coûteux. Mais une fois qu'on a ces examens-là, on est complètement intégré au résidanat, spécialité et puis médecin à exercice plein en tant qu'Américain. C'est la méritocratie qui n'existe pas en France. Pareil pour UK et pareil pour le Canada. Donc je pense que c'est vraiment une problématique française qui existe depuis très longtemps et qui demeure. Et que c'est vrai, quand le président se réveille maintenant, nous dit qu'il y a un problème. Et ben, moi, personnellement, ça fait 35 ans que je vis ce problème. Ouais. Je ne vois pas du tout être résolu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Que vous en pensez, docteur Ayoub? Vous avez entendu donc l'intervention de docteur Salima Kala?
Oui, tout à fait. Merci d'avoir un peu posé cette problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on a mis en place cette nouvelle procédure qui s'appelle la procédure d'évaluation des connaissances, qui se fait tous les ans en France depuis maintenant une vingtaine d'années, lorsqu'on a commencé à faire cette procédure, on a fait cette procédure sur deux parties.
Oui.
L'idée était de faire une partie pour les gens qui sont déjà en France, qui exercent déjà en France, pour un peu leur permettre d'évaluer et d'avoir des statuts. Et une deuxième partie qu'on a placée sous forme de concours pour les gens qui souhaitent venir en France, qui ne le sont pas encore, mais qui souhaitent venir en France comme ça, avant d'arriver sur les hôpitaux français, ils passent un examen qui leur permet d'avoir les équivalences. Mais malheureusement, en France, cette politique n'a jamais pris parce que, comme il y avait toujours des besoins, on a continué à employer les médecins à diplôme étranger qui arrivaient même en dehors du cadre de la loi, là, d'ailleurs souvent, sur des statuts précaires. En fait, les besoins ont toujours été tellement importants parce que la France, c'est un pays qui a changé le mode de recrutement des médecins. Ils ont fait un numerus clausus qui était très bas.
Oui.
Et puis ils
et ont, donc il y a un déficit en la matière, voilà.
Voilà, ils ont créé un déficit en nombre de médecins.
Oui.
Et puis surtout, ils ont changé l'entrée en spécialité. Avant, pour être spécialiste en France, il y avait la voie de l'internat et il y avait la voie de CES, qu'on appelait, qui permettait d'avoir deux voies de spécialité. Et là, on a enlevé cette voie, on a laissé que la voie de l'internat. Ça fait que l'hôpital public, dans un peu de temps, se trouvait devant un déficit énorme de médecins qui étaient comblés en permanence par des médecins étrangers qui... Ils voulaient pour la plupart venir comme moi d'ailleurs, comme tous les collègues.
Comme d'autres aussi,
là,
oui.
Venir au début pour un peu acquérir des connaissances supplémentaires et des compétences supplémentaires. Et comme on était retenu, entre parenthèses, parce qu'il y avait un appel, on est resté sur place.
Est-ce que voilà. Vous faites le travail du médecin, de l'interne, ou alors non, c'est juste des bras qu'on a besoin justement d'exploiter, docteur Rahmani?
Bon, écoutez, tout dépend du poste sur lequel vous êtes recruté. Hein. Si vous êtes faisant fonction d'interne, eh bien vous faites un boulot d'interne.
Hein. Oui.
Vous prenez des gardes, beaucoup de gardes, pour améliorer le quotidien. Parce que je vous dis, c'est mes 1600 euros bruts.
Oui.
On vit difficilement hein, à Paris, en région parisienne,
en région marseillaise.
Vous êtes
passé par là, Jamila Rahmani?
Non, je ne suis pas passé par là. Moi, je suis
passé par là.
Voilà, docteur Kala, vous êtes passé par là, racontez-nous.
Ah, oui,
vous avez accepté la précarité, l'inégalité salariale et vous vous êtes battu pour justement être aujourd'hui quand même chef de service oncologie,
chef de pôle.
Chef de pôle, absolument.
Oui, mais c'était la seule alternative en France. Hein,
d'accord.
C'était passé par le... Je voulais vraiment aller au bout de ma spécialité.
D'accord.
Je ne pouvais pas le faire en Algérie, je devais le faire ici. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais FFI dans des centres anticancéreux déjà. Donc
FFI,
plus petites
quoi,
qui sont pas publiques.
Hein,
c'est pas public.
FFI, c'est...
C'est faisant fonction d'interne. Ouais. Donc on est interne. Il y a l'interne à diplôme français à côté. Il y a l'interne à diplôme
on
français
est sous-interne.
À côté. On
ouais,
est sous-interne. Ouais. Mais on nous donnait toutes les responsabilités
ah oui.
quand même. Hein, donc
mais et comment ça se passe avec vos collègues, j'ai envie de dire français, avec
eh ben,
des diplômes?
Difficile. Déjà sur le salaire, ça crée des tensions.
J'imagine.
Sur la sous-estimation de soi, la perte de confiance.
Le mépris.
Ça, hein. Le mépris, la non-décision médicale,
ouais.
Même si on est compétent. Il y a ouais. des gens qui sont venus avec 15 ans d'expérience ou 20 ans d'Algérie, par exemple. Moi, j'étais jeune, hein, donc j'ai appris ici.
Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent d'être dégradés comme ça et continuent quand même à se battre, alors que le pays, l'Algérie, le pays d'origine,
non,
a
parce que
besoin...
Les conditions, parce que tout simplement, les conditions en Algérie sont très mauvaises.
Ouais.
Les gens sont sous-payés. Imaginez qu'un médecin spécialiste touche entre 600 et 900 euros,
ouais.
Enfin 900 euros c'est déjà beaucoup,
ouais.
entre 600 et 800 euros par mois.
Ouais.
Enfin, et, vu le coût de la vie dans les grandes villes en Algérie,
ouais.
vous ne pouvez pas avoir de voiture, vous pouvez pas vous loger difficilement. En périphérie de ville, enfin, vous avez une vie de merde. Quoi.
En fait,
excusez-moi l'expression.
On a prolétarisé les médecins.
Les médecins ont été prolétarisés. Être FFI en France, bah, vous touchez beaucoup plus d'argent qu'en Algérie. C'est aussi simple que ça.
C'est pas que pour l'argent, moi, je pense.
Non,
c'est un élément hyper important.
C'est un élément très important. C'est
oui.
pas que pour l'argent, mais c'est aussi pour le
Pour avoir
les
passé...
conditions,
oui, oui.
Les conditions de vie
et les conditions d'exercice.
Alors vous étiez à l'hôpital de Rinaldi.
Et encore.
Je
vais vous raconter une anecdote.
Moi j'étais à l'hôpital militaire. Moi c'était des conditions européennes.
Oui.
À
alors,
l'époque. À l'époque. Hein,
ouais.
Dans les années 70.
Ouais, il y avait encore le corps médical français.
Oui, mais... Oui. Non. Il y,
non.
Y avait des gens de très grande qualité, des médecins ouais. algériens de très grande qualité. Mais jusqu'à maintenant, l'hôpital Rinaldi, il y a des gens de très très grande qualité.
Il a fourni pas mal de médecins quand même en Europe.
Ouais.
Donc oui, la meilleure ouais. formation clinique qu'on ait pu avoir, c'est en Algérie. Ça, il ne faut pas
le
nier. Mais il y a de très très bons professionnels. Les équipements sont ce qu'ils ont, c'est une catastrophe. La culture sanitaire en Algérie, y compris à l'hôpital militaire. Pourquoi
ouais.
J'avais une patiente à l'époque qui souffrait d'un cancer du col. Et le seul traitement antalgique qui lui faisait du bien, c'était un suppôt de Voltaren. C'est rien, un suppôt de Voltaren. Et je ne peux pas trouver un support de Voltaren à l'hôpital Aïnadja. Il fallait que je rentre habiter chez moi, que j'achète la boîte et que je reparte le lendemain pour lui faire.
Oui, oui, mais c'est... Oui.
Voilà, c'est plus que scandaleux que ce que vous nous racontez là.
Ben,
c'est terrible.
Ça m'a fait venir et envoyer ma démission
ici.
Ben,
voilà, après, on la comprend parfaitement.
Après, voilà, c'est pas possible de travailler dans des conditions...
Donc les conditions de vie d'un médecin, d'un jeune médecin en Algérie...
Oui, l'écosystème,
sont très
dur, l'environnement.
Et en plus, les conditions de vie à l'hôpital, c'est
et puis, il n'y a pas d'espoir.
Les chambres de garde, les chambres de garde.
Autrement dit, vous préférez de loin la précarité française.
On n'a pas préféré la précarité. Ça nous a été imposé. Et puis, retourner sans avoir décroché son diplôme, pour moi, en tant que fille, déjà pour venir, ce n'est pas facile. Il fallait convaincre pas mal de... y compris le paternel. Hein.
Oui.
Donc, revenir avec un échec, parce qu'il y a des gens qui sont repartis au bout d'un an et deux ans parce qu'ils n'ont pas supporté. Nous, on s'est battus. C'était un vrai parcours de combattant. On en est fiers aujourd'hui, je pense, parce que finalement, on a réussi à se positionner et qu'on ne mange plus notre chapeau comme on avait 25 ans.
Mais vous savez, on ne s'exile pas par plaisir.
Bah, jamais.
Oui. Bon. Oui. Ouais,
le rêve, mon rêve, c'était de rester en Algérie, de vivre dans mon pays.
Voilà qui est dit. Voilà.
C'est tout. Et là, il y a une chose qui est catastrophique, c'est l'imposition de la langue anglaise en Algérie. Enfin, ça.
Absolument.
Non, c'est du grand n'importe quoi.
On est d'accord.
Moi, ça me dérange pas parce que.
Mais non, mais.
C'est une langue. Non. Que je peux maîtriser, donc ça ne me gêne pas.
Non, mais il y a déjà un acquis, il y a une langue qui est maîtrisée parfaitement, qui s'appelle le français.
Mais il y a un acquis.
Oui, mais il faut le garder.
Il y a un acquis. Il y a des enseignants qui ont appris à enseigner en français.
Oui, mais enfin, la médecine n'est pas... Les cours ne sont pas faits en anglais. Hein.
Non, mais la médecine ne se limite pas juste à la technique. Dans la médecine, il y a l'éthique. Il y a le raisonnement. Et pour raisonner, pour bien raisonner, il faut posséder une langue. L'anglais, je suis désolé, mais l'anglais qu'on parle en Algérie, c'est le globish, hein. C'est 400 mots. Hein.
Ouais. Bah voilà. En tout cas, c'est une décision politique. On aura l'occasion de revenir justement dans le cadre de la francophonie.
Moi, je suis plutôt pour l'ouverture.
Voilà,
en tout cas, concernant ma spécialité, si je ne lisais pas anglais, je suis out depuis longtemps.
Toutes les spécialités médicales.
Exactement.
Mais bien évidemment.
Alors, direction Marseille, j'ai envie de revenir sur une période qui nous a tous marqués. C'est la période de la crise sanitaire Covid-19. Docteur Ayoub, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je vis toujours avec vous.
Alors, pendant cette période-là, on ne regardait pas les diplômes. Corrigez-moi si c'est faux. On prenait les médecins parce qu'on en avait vraiment besoin, non ?
Oui, mais bon, c'est toujours des situations un peu tendues, même si, bien sûr, nous, en tant que médecins, on était là pour faire notre devoir de médecin. Avec tout l'engagement qu'on a toujours démontré. Ce qui n'est pas normal, ce qu'on dénonce, c'est que ces gens-là, parmi eux, il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts de soutenir le système de santé en France, qui ont fait beaucoup de gardes et beaucoup d'efforts, et qu'à la fin de la crise, on ne reconnaît pas leur parcours, leurs compétences.
Donc il aurait fallu prendre une décision juste au lendemain de la fin de la crise Covid-19. Vous êtes d'accord, docteur Rahmani, docteur Kala ? Comment vous avez fonctionné pendant cette crise sanitaire, docteur Kala, docteur Rahmani ?
C'était pénible, je pense plus pour toi que pour moi.
Bon, écoutez, on fait partie de la même fondation, hein, de la fondation Cognac G. Donc il y avait plusieurs hôpitaux, il y avait des cliniques, et les cliniques ont fermé, hein,
ouais,
la clinique Saint-Jean-de-Dieu a fermé, et les médecins anesthésistes sont venus donner un coup de main à l'hôpital. On n'a pas eu tellement de difficultés pour fonctionner parce que les bras étaient là du fait de la fermeture. Des structures privées, hein, des cliniques privées.
Moi, personnellement, j'en ai un peu souffert, parce que théoriquement, tous qui étaient touchés par le Covid devaient atterrir dans des services de pneumologie. Le nôtre était plein, parce que les périphériques nous adressaient, l'aréa était pleine. Et pour les patients qui étaient sous chimiothérapie, il n'était pas question d'interrompre le traitement du cancer, pour certains en tout cas d'entre eux. Et là, dans mon service, j'ai dû faire une aile spécifique pour l'onco-Covid, en fait, où ils recevaient leur traitement contre le cancer et oui. ils étaient traités aussi pour le Covid. C'était un peu dur, ça nous faisait des journées à rallonge. Mais bon,
avec
ça,
tous les
risques,
j'imagine. Et vous auriez souhaité justement qu'il y ait une reconnaissance au lendemain de cette crise sanitaire. Docteur Ayoub, nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Que revendiquez-vous justement? Le président de la République est à la fin de son mandat, c'est dans quelques mois, la présidentielle 2027. Il est en train de, effectivement, il faut le dire, envers l'Algérie, il a réchauffé les relations. En tout cas, j'espère que ça va durer. Après, et peut-être qu'avec les médecins...
Après les avoir effondrés. Hein.
voilà, qu'avec justement les médecins franco-algériens et autres à diplôme étranger.
Européen, oui.
Ouais, alors justement, est-ce que vous attendez à peut-être un geste fort de la part d'Emmanuel Macron, et il va le faire peut-être avant la fin de 2027?
Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai demandé une audience, j'ai écrit une lettre, et j'ai demandé une audience au président de la République et son cabinet responsable de l'organisation sanitaire, et j'espère qu'il va nous répondre, et ça va permettre, en tout cas, je dirais, moi dans ma lettre, je mets en avance 3 choses, je dis, c'est vrai qu'il y a... le statut des médecins à diplôme étranger et l'organisation des équivalences. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le recrutement des médecins à diplôme étranger est un problème franco-français. C'est un problème de l'organisation de soins. Aujourd'hui, dans les zones sous grande tension, il y a au moins 20% de médecins à diplôme étranger qui exercent. Dans voilà. certaines spécialités et certaines régions, essentiellement en chirurgie, on arrive à un taux de 70% de médecins à diplôme étranger.
70%, c'est énormissime.
Oui. Mais dans certains services, 100%.
Oui. Dans certains services, dit Rahmani, 100%.
C'est pour ça, le problème n'est pas...
Numéro 1, vous demandez à ce que le président... il faut légiférer sur cette question. Et vous demandez la reconnaissance, bien sûr, des compétences et garantir l'équité de traitement. L'équité de traitement dans la rémunération, j'imagine, et bien sûr dans le statut. Alors, on est fait la fin de l'émission.
Exactement. Ce que je dis, je le confirme là, c'est que lorsqu'on met en difficulté un médecin à diplôme étranger, c'est vrai qu'on met la personne en difficulté, mais on met l'hôpital en difficulté.
Ouais.
Parce que lorsque la personne soignant il a des problèmes administratifs à régler, il est préoccupé par des futilités. Et il ne fait pas son travail.
Alors on va inquiéter les patients, les patients français de souche et d'autres patients.
Non, mais fermeture de lit et
compte tenu,
de soins réduits.
Compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale, je souhaite du plaisir.
Hein. Oui. Voilà. Alors, sur quoi on peut terminer? Merci, docteur Ayoub, d'être intervenu depuis Marseille.
Merci,
on espère en tout cas venir à Marseille pour faire une grande émission sur l'Algérie et puis sur aussi, bien sûr... la politique, puisqu'on avance à grands pas vers la présidentielle 2027. Alors, 30 secondes pour conclure.
Oui, mais compte tenu de l'atmosphère xénophobe qui a actuellement
qui règne,
en France, qui règne en France et qui n'est pas prêt de s'arrêter, je souhaite du courage à tous ces médecins, justement, tous ces médecins hors Union européenne, parce que les conditions ne sont pas favorables.
Vous êtes en train de nous dire que, en fait, cette problématique ne sera jamais résolue. C'est bien ça qu'elle a...
C'est un petit peu malheureusement ce que je pense.
Bon, on va terminer sur une note négative.
Très négative, mais n'empêche qu'il faut se mobiliser.
Je vais dire l'inverse.
Voilà, non, mais on espère.
Ça fait 3 décennies.
Compte tenu de l'atmosphère qui règne actuellement en France, franchement, on peut avoir les plus grands doutes.
Ouais, et puis, je veux juste rajouter un sujet dont on n'a pas parlé, qui me semble très important.
Oui.
Ces diplômes hors Europe ont été vraiment malmenés depuis l'Europe. Hein, donc, les Roumains, les Polonais, etc., ils viennent, leurs diplômes sont validés. Et on a reçu le choc dans les années 2000 avec l'arrivée des Européens. Ce n'est pas négligeable dans la balance.
Voyez-vous. Un sujet qu'on n'a pas suffisamment épuisé, qu'il faut des heures et des heures. En tout cas, merci aux 2 médecins qui sont venus dans nos studios, Radio Orient, bien sûr. Docteur Jamil Rahmani, qui est maintenant verse dans la naturopathie. J'espère qu'on aura...
Non, pas la naturopathie, mais la médecine
douce.
Non, pas la médecine douce. la médecine, les plantes ont des vertus qui sont reconnues par la médecine.
Et il fait bien sûr des vidéos extraordinaires que vous pouvez écouter et que vous pouvez effectivement appliquer sur
Facebook,
sur vous.
Sur Médecine d'hier et d'aujourd'hui.
Voilà, et puis la promotion. Docteur Kala Salima, merci d'être venu.
Merci à vous.
Malgré bien sûr la tâche que vous avez donc dans cet hôpital. Merci en tout cas d'être venu. Et merci à vous, docteur Ayoub, pour votre intervention depuis Marseille. Merci au maestro qui a réalisé cette émission, Raymond Jouan. Et je vous souhaite une excellente écoute. Restez branchés sur Radio Auréole.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Berre.